Bonjour à tous pour cette 23e émission de l'art qui parle de notre temps. Aujourd'hui, nous allons poursuivre le commentaire de l'exposition de Marcus Lupertz au Musée des Beaux-Arts d'Orléans qui se termine le 4 septembre 2022 et celui consacré à une série d'expositions autour du titre « Peinture obsolescence déprogrammée ». Le premier volet, dont je vous avais déjà parlé, avait eu lieu au Musée des Sables d'Olonne et le second s'est terminé le 8 mai 2022 au Musée de l'Hospice Saint-Roch. La programmation musicale met à l'honneur cette jeune chanteuse espagnole, Rosalía, dont nous écouterons trois titres, Malamante, Yo vas olvidar, chanté en compagnie de Billie Eilish, et Antes de morirme, chanté avec le rappeur espagnol C. Tanaga. Commençons par ce titre envoûtant, Malamante de Rosalía.
Ese gritalito roto, yo sentí como crujía. Antes de caerse al suelo, ya sabía que se rompía. Está parpadeando la luz del descansillo. Una voz de la escalera, alguien cruzando el pasillo. Malamente, sí, sí, malamente. Se mueve y tambalea. Malamente. Así sí. Malamente. Mira. Malamente. ¿A qué toma? Malamente. Y yo. Malamente. Malamente.
Aunque no esté bonita, la noche un día. Pensarte
malamente. Así sí, malamente. Mira, malamente. ¿A qué toma? Malamente. Y yo, malamente. Yo, malamente. ¿A qué toma? Malamente. Y yo,
un peu de lecture. L'importante exposition de Marcus Lupertz au Musée des Beaux-Arts d'Orléans, qui se finira le 4 septembre 2022, propose à la fois un parcours au sein du musée et une incroyable présentation de 11 sculptures dans la ville. Elle mérite largement que nous poursuivions notre propos sur l'œuvre de Marcus Lupertz. Nous porterons notre attention sur sa sculpture en commentant un livre, Sculpture, comprenant un ensemble de textes sur 5 artistes, 4 allemands de même génération, Baseli, Chimendorf, Lupertz et Epping, et un artiste danois, Kirkeby, édité par les éditions de La Différence à la suite d'une exposition qui a eu lieu du 12 octobre au 20 décembre 1989 à l'école d'architecture de Normandie. Comme nous l'avons évoqué, Baseli, Chimendorf, Lupertz et Epping sont animés par une rage, une agressivité qui prolonge l'esprit dada après la Seconde Guerre mondiale. Tous peintres au début, ils se lancent dans la sculpture entre les années 1970-1980. Cette exposition Marcus Lupertz, le faiseur de Dieu au Musée des Beaux-Arts d'Orléans, interroge le rapport entre la peinture et la sculpture, non pas en les opposant, mais en les considérant comme une extension de potentialités créatives qui se nourrissent du passage de l'une à l'autre. Bernard Lamarche-Vadel, dans son texte « Comment aimer l'art allemand », nous dit « Mais en réalité, ce sont des peintres, ayant déjà une œuvre fortement structurée, qui, tout au long des années 1970-1980, vont sculpter. L'opération qu'ils entreprennent alors est de déduire de leur vision de peintre les figures de leur pratique de sculpteur. Mais pour que leur sculpture les rapproche en quelque sorte, les initie au noyau ombilical de leur vision artistique, dont la peinture chez eux assure le plus grand déploiement. La sculpture venue tardivement, ou pour le moins après la peinture, figure un retour ou une avancée du socle intérieur des principes de la peinture, exposé alors le plus concrètement possible, le plus radicalement possible. Cette volonté de faire valoir par la sculpture, de manière à la fois concise et souvent brutale, l'axiomatique de l'œuvre globale, est un moyen privilégié qui répond à leur souci constant de réintégrer une tradition. Ainsi, ils relèvent que leurs sculptures sont des figures qui se carrent sur elles-mêmes pour faire émerger de ce chaos environnant des points d'ancrage de la réinvention de leur tradition allemande anéantie. Nous pouvons en déduire que ces sculptures ne visent pas à s'intégrer à l'espace environnant, mais à s'y imposer. De plus, comme le note justement Bernard Lamache-Vindel, elles annoncent un nouveau statut du dessin. En effet, le dessin, souvent dans la tradition de la Renaissance, jouait le rôle d'étape préliminaire à la peinture, permettant de circonscrire la composition et la représentation du sujet la plus proche de l'idée qu'en fait l'artiste. Or, pour l'auteur, le dessin, même s'il peut encore jouer ce rôle, s'en émancipe en dictant son propre enjeu dans l'élaboration de l'œuvre de l'artiste, qui profite des potentialités de chaque médium pour amplifier son propos, les convoque les uns les autres pour former un seul flux créatif à son service. Bernard Lamache-Vindel nous dit « Mais il est clair que la fonction du dessin, en tant que modèle intercalaire, vérité du squelette dans le corps de la représentation, n'est tout simplement plus crédible aux yeux d'un peintre à la fin du XXe siècle, habitué à peindre autant avec un crayon qu'avec un éventail de concepts sophistiqués. Pourtant, la force de recentrement de la figure, de privilège des linéaments architecturaux d'une vision, demeure nécessaire. Ainsi, je ressens les œuvres sculptées des artistes allemands comme une tentative de trouver un équivalent crédible, fortement matérialisé, voire même imposant de la vieille fonction à la fois analytique et déclarative du dessin. À ceci près que le dessin ou la sculpture du sujet isolé n'est pas un canevas antérieur au tableau, mais au contraire déduit du tableau pour en fixer le projet principal, la direction irréductible, la teneur essentielle. Projet, direction et teneur, soulignés, circonscrits, matérialisés pour alimenter, corriger et parfaire l'œuvre peinte. L'œuvre décrit un double mouvement, celui de se remémorer la force de la tradition, tout en s'en émancipant au profit de sa régénération au sein même de son œuvre. Une œuvre qui se définit par elle-même et pour elle-même, et qui au fil des peintures, des sculptures, dessins, poèmes, se construit de proche en proche. Marcus Lupertz écrit dans son livre de texte « Narcisse et Écho » que nous avons déjà commenté lors de la dernière exposition. Je le cite. Nietzsche écrit dans « Humain trop humain », c'est lorsque l'art s'habille de l'étoffe la plus usée qu'on le reconnaît le mieux pour de l'art. Voilà qui parle en faveur de la tradition. Pourtant, qui sait regarder les tableaux, eux aussi ne cessent de donner lieu à des révolutions. Cette joute grandiose qui oppose les peintres, ce jeu de dupes avec la tradition, sont une source d'émulation et de satisfaction toujours renouvelée. Ce trésor de traits, de lignes, de surfaces et de couleurs qui donne naissance à des univers entiers, voir les tableaux surgir les uns des autres, cette chaîne jamais interrompue, cet appétit pour le grand comme pour le petit, cette liberté au sein d'une ère culturelle plusieurs fois millénaire, de vivre à plein et de contribuer à façonner ces inquisitions, ces protestantismes, ces hérésies délibérées, voilà de quoi faire taire tous ceux qui, pour la énième fois, ont proclamé la mort de la peinture. Les tableaux ont besoin d'une époque. Les tableaux ont besoin des hommes inscrits dans une époque désireux de voir leur époque ou à travers les tableaux de leur époque, en prétendant non pas déchiffrer leur sens ou leur dessin au sens de projet, mais retrouver le sens de leur propre liberté, de leur propre dessin, toujours là, destin ou projet, dans les tableaux qu'ils aiment ou qu'ils détestent. Car le peintre continue de peindre la représentation que vous vous faites des tableaux. Il est clair pour Marcus Lupertz comme pour les peintres allemands que nous évoquons ici, que la tradition ne peut se régénérer que par l'invention et les révolutions des peintres qui sont seuls capables, dans une époque donnée, de l'inscrire dans les attentes, le destin de ceux qui y vivent. Bernard Lamache-Vindel, en parlant de l'œuvre de Bazelich, nous dit ceci. « La vision de Bazelich n'est peut-être pas politique, Mais comme chez tous les grands créateurs qui représentent leur époque, Bazelic, à travers son œuvre, nourrit une exigeante réflexion morale en termes de combat contre la position dominatrice de l'homme, dont il exprime l'histoire particulière à son pays et à sa culture, objet d'un travail de repentir pour organiser les conditions d'une renaissance. Ce thème de la renaissance, qui fut déjà le thème majeur de Beuys, est celui de Bazelic, comme de ses confrères. Comment dès lors ne pas aimer l'art allemand, ou pour le moins un certain art allemand, celui qui, en affirmant sa spécificité, affirme du même coup la nécessité de produire un langage, et non pas seulement un style correspondant à la situation exceptionnelle de l'Allemagne à tout égard. Un langage, c'est-à-dire une énonciation figurale où l'héritage est qualifié pour ce qu'il est, objet à repentir, obligeant les artistes allemands dans la société allemande à un travail permanent d'élucidation et de représentation des effets du crime dans la recherche d'une nouvelle identité nationale. Revenons sur quelques points pour les appliquer à l'œuvre de Marcus Lüpertz. Une tradition régénérée au travers de la peinture, de la sculpture. Une exigence de morale de ne pas abandonner, de fouiller sa peinture sans quitter son objet en refusant tout thème sujet à la peinture au profit de la rigueur de la figure, une incarnation de l'époque dans la peinture, dans la sculpture, qui permette aux plus attentionnés de partager la réalité de l'époque à travers l'œuvre. Nous allons les reprendre les uns après les autres. Premièrement, si la peinture, le dessin ou la sculpture se refusent à développer un quelconque thème ou sujet, ils n'écartent pas la possibilité d'investir une figure mythologique, Judith, Achille, Ulysse, Athéna, Daphné, Hercule, historiques, Mozart, Fragonard ou les figures de l'histoire de l'art comme la femme à la cruche ou religieuse, Saint Sébastien, comme point de départ du processus de régénération qu'entreprend l'artiste. Ce processus s'écarte du bruit de l'actualité du monde, irrigué par les jeux de pouvoir contextuels et dérisoires, prend acte des conséquences du chaos issu de la guerre et vise avec une énergie débordante de redonner figure à ce que nous sommes, cabossé, manipulé, laid, cassé, mais maître de notre liberté. Il en résulte des figures cassées, découpées, difformes, laides, mais fièrement dressées, des corps présents. Deuxièmement, pour parvenir à mettre en œuvre ce processus, l'artiste doit triturer la figure dans le seul but de lui communiquer une énergie vitale. Le journal d'Hercule au sein du livre Narcisse et Écho témoigne de cette recherche épuisante pour trouver la forme juste, au-delà de tout compromis esthétique. La sculpture Hercule, dont un exemplaire est présent au jardin de l'hôtel Grolot, est en premier lieu une sculpture en aluminium de plus de 18 mètres de haut de la Northstern Tower à Gelsenkirchen, installée tout en haut de cet immeuble en 2010. Elle fut conçue en trois parties et donna lieu à trois périodes de fonderie. Néanmoins, cette création de cette sculpture ne peut se comprendre que comme un élément d'un nombre important de Bozzetti, c'est-à-dire de dessins réalisés autour de la sculpture, tout au long de sa réalisation, et de sculptures de différentes tailles qui en sont issues, comme celle exposée à Orléans. Je vais vous lire quelques extraits de ce journal pour vous montrer comment l'artiste travaille, conçoit progressivement sa sculpture, en évitant à chaque fois de tomber dans le piège d'une œuvre trop littérale, trop classique, et en y recherchant une figure libre dégagée de toute forme de complaisance esthétique pour parvenir à un bloc brut, laid, dissonant, mais irrigué d'une présence, d'une énergie presque divine, surhumaine, pour faire référence à ses lectures nietzschéennes. 14 novembre 2009. Travaille sur les jambes depuis 3 jours. Des problèmes s'esquissent. Nombreux dessins pour définir le jeu de jambes. 17 novembre 2009. Je commence le pied gauche. La forme d'ensemble est juste, mais je veux des excroissances, des décalages. Une jonglerie espiègle au pied léger, voilà ce que je veux. 19 novembre 2009. La forme est juste maintenant, vient le dénouement ou bien une nouvelle déformation. Je contrôle un entassement de détails. Le parallèle, je joue un accompagnement de Bozzetti entraînant qui cherche à rendre justice à l'histoire d'Hercule par les moyens de la sculpture. 3 décembre 2009. Moi entre les jambes. Colonne qui se dresse jusqu'au ciel. Porteuse de la masse, de l'harmonie et de la surface à venir. 5 décembre 2009. 2 jours que je me débats avec l'océan. 4 janvier 2010. Après la fonderie puis le réassemblage, et une fois de plus l'assurance de la jambe libre et de la jambe d'appui m'étonne. Cette surface fugitive comme mon peinture me stupéfie et me donne à comprendre que seul un fragment peut être gigantesque. Un fragment n'est qu'une allusion à une grandeur infigurable. Allusion complétée par les attentes du spectateur. 8 janvier 2010. Dans les années 50, nous étions libres du fait de la reconnaissance de notre culpabilité et de notre division, et nous nous sommes essayés au phénomène « rester libres ». Mais cette tentative, elle aussi, s'est achevée dans l'oppression, car la liberté est un monument de silence, de solitude et de responsabilité envers soi-même. Or, cet espace-là, libre du jeu, passe tout au plus de la provocation dans un environnement où règne l'oppression réciproque, et on ne voue pas le moindre amour au jeu amoureux de lui-même. Notre époque fait de l'individu un marginal. Elle le hait même d'être un individu. Elle lui donne la liberté et ne lui pardonne pas de la vivre. 29 janvier 2010. Peu travaillé hier. Dégager le cou raccourcit le buste. Il faut placer le cou plus bas et avancer la tête par rapport au corps. Sinon, d'en bas, on ne voit que le buste et pas du tout la tête. Dans l'ensemble, il faut que la sculpture s'avance au-delà de la corniche du bâtiment. Le bras a besoin d'une nouvelle jointure avec l'épaule. De façon générale, la sculpture est une réinvention constante du corps humain tel qu'on le connaît familièrement. Rien de ce que l'on connaît ou de ce que l'on sait ne peut servir, mais les solutions qu'on découvre sont elles-mêmes familières et justes. 3 février 2010. Le travail consiste encore et toujours à déplacer des masses et à atteindre le génie. Atteindre que l'oiselé génie se pose d'un léger coup d'aile sur les lourdes épaules d'Hercule. 15 février 2010. Les poids sont répartis. Ça coince encore un peu ici et là. Mais la ligne est juste. Le cou est trop épais, les épaules trop rondes. Tout est posé là, ça n'a pas de nerf. Mais la hache fera son office. Je suis le bourreau d'Hercule. Et le temps presse. La perfection n'est possible que par omission, par des voies détournées, et dans l'échec de ces tentatives réside l'art. 17 février 2010. Hier, la main. À corps et à cri, la sculpture réclamait une action. La main est cette action. Elle saisit la pomme des Hespérides. Elle vole, elle dérobe, elle tient bon, elle est capable de tenir bon. Ce qui m'agaçait sur la main, c'était le pouce. Et ce qui m'agace, je le coupe. Enfin, c'était la bonne solution. Cette histoire de pouce m'a omnibulé pendant 2 jours, jusqu'à ce que je comprenne que ça pouvait fonctionner si je laissais tomber. Et déjà, je me prépare pour le dernier tiers, la tête. Je tâche d'inventer un visage à ce géant sans tête. Un visage qui exprime un seul et même étonnement, le sien face à sa propre grandeur, et le mien face à la vie, à l'être, et je vais faire taire mon horreur face à un monde qui s'indiffère à lui-même. 21 février 2010. La tête, le couronnement. La seconde action. Mimique abstraite, visage d'un dieu, regard braqué au loin, barbe, je veux que la tête soit peinte en couleurs vives et qu'elle s'incline. 17 mars 2010. La tête débute par un entassement. Répartir le poids. Poser les yeux. Considérer l'arrière de la tête, le poids latéral. Les paupières qui s'étirent vers l'arrière. Le bout du nez, les dimensions extérieures et la recherche d'une expression. Et une bouche pour parler. Avec les yeux, avec la bouche, la sculpture prend vie. Commence à m'observer, commence à me défier, à me railler. Les yeux ne me lâchent pas. Le moindre coup modifie la bouche. Le moindre hasard modifie la mimique. Fait naître un sourire moqueur ou une tristesse des plus profondes. La bouche veut sans cesse donner son avis jusqu'à ce qu'elle reçoive sa forme définitive et qu'elle se taise, ou qu'elle commence à vous parler. 1er avril 2010, le problème avec une grande tête, c'est que le visage risque de perdre son paysage. On court d'une colline à l'autre, on traverse les vallées dans l'espoir de découvrir un horizon plastique. 6 avril 2010, hier j'ai réussi la bouche et maintenant je me débats avec les oreilles. À m'entendre, on croirait un chirurgien. 10 avril 2010, le regard indolent d'Hercule, sa bouche parle romain, il prend chair. Maintenant, l'arrière de la terre était ouvert et il le restera. Derrière la tête, à droite et à gauche, naissent des excroissances pareilles à des feuilles d'artichaut qui défont la tête vers l'arrière. L'œuvre reste légère, elle cherche sa perfection dans l'évasif. Les dimensions exigent une certaine légèreté, une certaine dérision. Troisièmement, une incarnation de l'époque dans l'œuvre qui permet aux plus attentionnés qu'à ceux qui font l'effort de partager cette appartenance. Comme pour les œuvres qui évitent toute représentation d'un thème ou d'un sujet, il s'agit d'éviter toute référence idéologique ou politique afin de favoriser la confrontation à l'œuvre que l'on apprécie ou non. L'aspect difforme, laid, brutalisé, cassé, puis recollé, etc. n'est pas tant fait pour provoquer le spectateur, au contraire, il est pour le guider hors du monde, en haut d'une montagne, pour mieux voir son époque. Il est clair qu'une lecture littérale de sa sculpture ne peut qu'engager qu'une réprobation, une réaction violente vis-à-vis d'elle. L'artiste en a largement fait les frais avec de nombreuses de ses sculptures. L'artiste renoue avec la tradition par une insoumission aux conventions bourgeoises de la tradition humaniste, car il pense à sa renaissance par une revendication d'une liberté absolue de l'individu, garant d'une possible humanité, comme si l'on pouvait renaître de ses propres réparations. Il fustige ceux qui se conforment à la société, ceux qui pensent qu'il est possible de l'amender, de l'améliorer, car, comme pour Vasilich, la société des hommes n'est qu'une forme permanente de chaos que seul l'art parvient à élever. Cette croyance que l'art peut être partagé pour tous, mais pas par tous, est salvatrice, même si elle relève du miracle ou de l'énigme. Ce rejet du temps présent, du politique, n'est pas un dédain de sa part, comme pourrait le faire penser son attitude, c'est plutôt une forme d'indifférence. Écoutons Marcus Lupert dans son journal sur Hercule. 6 avril 2010. Et les beaux-arts tels que je les conçois sont un phénomène marginal. Ils n'existent pas en tant que genre artistique nécessaire. Deuxièmement, il n'y a plus que des donations à caractère social. Nous vivons sous le régime de terreur sociale qui exclut toute forme de générosité. Tout ce qui vit en liberté et qui n'est pas un jardin d'enfants relève du luxe et vu d'un mauvais œil et le financer revient à financer Satan. L'art, cette belle absurdité, est méprisé, bon à jeter, car détaché de toute responsabilité sociale. Tous les autres faiseurs d'art satisfont à cette terrible exigence du don et du partage, que ce soit par la thématique ou par un engagement de bienfaisance. Cet intérêt pour la chose publique est un jeu de cache-cache, une excuse pour la richesse privée, il est bourgeois. Si tu refuses, on te met à l'écart. L'État te regarde de travers et te voilà redevable à jamais d'une preuve de ton sens social des responsabilités. Jamais encore on n'avait vu si étouffante dictature du peuple. Jamais encore un peuple ne s'était à tel point opprimé lui-même dans un état de soi-disant liberté. Cette forme d'auto-oppression agit au moyen de l'épouvantail envie et du couteau défiance. Elle n'a besoin d'aucune sorte d'organisation, mais uniquement de l'État, son exécuteur complaisant. Nous finirons, comme la dernière fois, par quelques extraits d'un poème de 1976 de Marcus Lupertz. Ne meurs pas avec les problèmes de ton temps, le temps est mûr. Nous sommes le nouveau centre de tout. Les inconséquents, et ceci est une menace, se trahiront par leurs œuvres. Preuve accablante et durable, élément à charge éternelle. Se constitue enfin une élite, une noblesse des peintres. Pas pour tout le monde. Pas pour l'homme de la rue. Pas faite pour qu'on la touche. Pas faite pour qu'on s'en habille. Peinture linceul des pensées et des idées viles. Neige des aveugles. L'art se dresse fièrement dans le paysage sans lécher les bottes de ceux qui l'aiment. Il veut être courtisé et non utilisé. La peinture s'enrichit sans cesse et sans vergogne des réussites extraordinaires de ses servants résolument géniaux. Faire jaillir la mélodie de l'art des esprits sensibles. Semer le printemps dans les regards de flaques congelées de ces jeunes vieillards aux boucles figées par un givre précoce. Allumer le feu dans les mains. Raconter que la douleur vit doit être préférée à la douleur du rien ou à la non-douleur du rien. Ne meurs pas avec les problèmes de ton temps.
Dis-moi si on t'a le même. Dis-moi si non me perdonas.
Thank you. grandeza. Dime si aún queda algo en común. El tiempo que se pierde no vuelve. Dame un beso y bájame de la cruz.
Un peu d'exposition. Nous rencontrons pour la seconde fois l'exposition Peinture obsolescence déprogrammée dont nous avons parlé au cours de notre 16e émission pour l'ouverture du premier volet au Musée des Sables d'Olonne qui s'est déroulée du 12 octobre 2021 au 16 janvier 2022. Il s'agit d'un second volet du projet qui donne lieu à une autre exposition intitulée Licence libre qui s'est terminée le 8 mai 2022 au musée de l'Hospice Saint-Roch à Issoudun. Ce programme étudie les relations entre le numérique et la peinture en essayant d'analyser les impacts de ces nouvelles technologies sur les pratiques, les contenus et les objectifs de la peinture. Le titre générique du programme laisse penser que la peinture parviendrait à résister aux flux d'images en développant des stratégies pour conserver son identité. Les deux colloques, dont les actes constituent le catalogue de l'exposition du Musée des Sables d'Olonne, ont largement démontré que la question de leur relation est d'une plus grande complexité qu'il n'y paraissait, en raison de l'enjeu de l'image dans le fonctionnement de nos sociétés actuelles. Le flux exponentiel et incessant des images, massifié par l'utilisation des technologies numériques, influe sur notre perception d'un présent omniprésent, broie les enjeux de mémoire et augmente les capacités de la surveillance sociale, du voyeurisme généralisé et des manipulations rendues possibles par l'intelligence artificielle. Ce constat n'a rien d'inconnu, vous en constatez tous les jours les effets. Camille de Brabant, commissaire de ces deux projets d'exposition, a retenu pour cette dernière le sous-titre de licence libre, qui peut paraître un peu énigmatique. Il évoque le mouvement de la communauté numérique qui s'oppose à la marchandisation de l'ensemble des flux de data, aussi de la stratégie de transgression et de subversion qui tente de répondre à cet accaparement des data généralisées au profit de très peu d'entre nous. Elle organise l'exposition en trois parties. La première concerne les modes d'appropriation des images, remix, conversion et codage. La seconde, les modes intrusion et exhibition, le traitement numérique de l'humain, surveillance et voyeurisme, et la troisième, les modes des stratégies de résistance. Notons dans le catalogue la qualité des notices qui accompagnent chaque œuvre. Chaque exposition est une forme de récit qui, à partir d'un choix d'œuvre, raconte une vision. Celle-ci insiste sur l'appropriation par l'humain des images créées, manipulées, triées, diffusées grâce aux technologies numériques, sur ses conséquences et sur les formes de résistance que l'art peut lui opposer. L'appropriation en art est l'utilisation d'objets ou d'images préexistants avec peu ou pas de transformation. Des références artistiques que l'artiste s'approprie pour créer sa propre œuvre, à l'objet industriel qui s'est déclaré œuvre comme le ready-made de Marcel Duchamp, à l'œuvre d'un artiste qui devient l'œuvre d'un autre. Comme le travail de Sherry Lewin, il y a une gradation de l'appropriation qui répond à la logique inflationniste de notre société économique. Nous retrouvons ces formes d'appropriation dans la musique, comme par exemple le sampling, le mix, qui sont largement développés avec l'apport de ces technologies. La facilité de leur emploi aujourd'hui conduit à une massification de la production musicale et du réemploi inflationnel des musiques. Ainsi, dans le champ numérique, la dimension verticale des niveaux inflationnistes s'ajoute à la dimension horizontale de la massification des images, des sons, des textes et de leur interaction au point d'en modifier les contenus, les stratégies et les statuts. Pour revenir à l'exposition, la commissaire, pour aborder cette question, préfère sagement partir du point de vue des différents modes de l'appropriation, pour ensuite en dessiner les effets et leurs conséquences, car il convient de décrire le processus de travail de l'artiste afin de pouvoir comprendre le sens de l'œuvre et ensuite l'analyser dans son contenu artistique, économique et social. Ne faisant que commenter cette exposition, je peux prendre le risque d'essayer de l'aborder différemment. Non pas par les processus mis en œuvre par les artistes, mais par les techniques mises en place au sein de l'œuvre pour résister à la société de consommation, de médiatisation, issue de la société capitaliste, post-capitaliste, néolibérale, appelons-la comme nous le souhaitons, car elle est une hydre de définition possible. Cette tentative d'expliciter ces techniques ne s'opère que dans une visée pédagogique et ne présente aucun enjeu d'exhaustivité. Elle essaye juste de donner quelques amorces à votre compréhension des œuvres, sachant qu'elles offrent, pour les meilleurs, une multitude de lectures. La première technique mise en œuvre au sein de l'œuvre pour résister à la société de consommation, pour la critiquer, serait la simulation, qui déstabilise le regard et le conduit à une observation minutieuse, critique, d'une consommation des images dans un temps présent, instantané. Dan Hayes, dans la série Spring Snow, reproduit par un long travail de peinture pointilliste des vues aériennes de forêts de pins sous la neige. L'œuvre est saisissante, car elle installe un trouble entre ce qui pourrait être un écran de neige de télévision et la vision aérienne des cimes enneigées des pins. Dan Hayes opère une double simulation, entre l'écran télévisuel et la vue aérienne, et entre l'image support de la peinture et la peinture elle-même, affirmant ainsi la dépendance de l'image de sa perception et son ralentissement par la peinture, dont la matérialité est construite dans un temps long de la peinture et contraint à une forme de contemplation nécessitant un temps long du regard. Amélie Bertrand, dans son œuvre The Swamp Invader, compose une image à l'ordinateur comprenant des sortes de nénuphars qui flottent dans une piscine et qu'elle peint précisément et en aplat. Sa peinture vient simuler l'image originale qu'elle a composée en délocalisant et détemporalisant son contenu. La composition de l'image originelle crée les conditions pour que s'opère cette délocalisation et détemporalisation que la peinture fixe définitivement. La piscine est réduite à n'être qu'une piscine comme toutes les autres et l'absence de suggestion de mouvement gélifie le temps qui semble arrêté. Les ombres des sortes de nénuphars immobiles et cernés sont autant objets que les nénuphars eux-mêmes. Dès lors, ils peuvent être ces personnages de l'un des premiers jeux vidéo Pac-Man ou faire référence à ceux de Monet, comme le laisse supposer le titre ou toute autre chose pouvant s'y rapporter, puisqu'ils sont avant tout des objets. La simulation qu'elle opère entre l'image originelle et la peinture qui en découle affirme à la fois l'inanité et la vanité de l'image à croire à sa puissance, et la capacité de la peinture à enrayer cette consommation incessante des flux d'images insignifiantes. La seconde technique serait la traduction, dont le but est de permettre de traduire un texte dans un autre langage. Cette incompréhension du texte sans la connaissance du langage qui s'y rapporte le rend énigmatique et illisible, nous obligeant à prendre le temps important pour pouvoir dans un premier temps le déchiffrer puis le comprendre. Ainsi, l'œuvre d'Angela de Tanico et Raphaël Lenne, 27 rue de Fleurus, recourt à ces deux étapes. Elle se présente comme un ensemble de signes colorés issus du carré correspondant aux lettres d'un alphabet cubica et à des couleurs issues des œuvres de la collection de Gertrude Stein, obtenues à partir d'un traitement numérique de l'ensemble de celles qui forment cette collection. Après avoir déchiffré ces signes colorés à l'aide de l'alphabet cubica, nous obtenons le texte d'un poème écrit par Gertrudstein qui habitait au 27 rue de Fleurus. L'œuvre 27 rue de Fleurus inscrit au sein même de sa structure l'énigme, le temps pour la dévoiler, son lien à l'histoire de l'art et la lecture d'un poème. Elle offre tout un trajet d'analyse qui s'oppose à la consommation et au flux des images. La troisième technique serait l'exclusion de l'espace de l'œuvre, dont l'objectif serait de nous empêcher d'être ni dedans ni dehors. Elle s'obtient soit par l'encombrement de l'espace, soit par la distorsion de l'espace, tel un miroir qui, en renvoyant l'entièreté de l'image, nous empêche d'entrer dans l'image reflétée, ni de nous situer à l'extérieur, puisque l'image reflétée nous inscrit à la surface du miroir, au point de jonction entre l'espace de l'image et l'espace du regardeur. Le refus de l'œuvre de se livrer implique une forte résistance à la consommation des images qui doit vite être assimilée puis rejetée. L'œuvre de Sarah Morris, Pool Blue Moon, Miami, se présente comme une œuvre abstraite qui pourrait évoquer un immeuble. Le titre fait référence à un nom d'hôtel de Miami. Elle est composée d'une grille grise qui traverse latéralement l'espace du tableau et crée une séparation entre nous et l'enchevêtrement des lignes rouges qui structurent la composition. Le tout est peint à la laque qui réfléchit la lumière. L'œil ne peut se poser nulle part car il est toujours invité à se déplacer dans cet ensemble. La grille lui ferme l'accès à l'espace du tableau et sa position diagonale accentue le glissement de l'œil vers la droite qui se trouve évacué du tableau. L'œuvre de Rémy Isberg, pour l'instant, s'organise d'une façon similaire, mais de manière frontale, en opposant un fond spatial confus, barré, lacéré par de grandes traces de peinture qui déstabilisent l'œil dans sa volonté de saisir l'espace du fond. Peint sur un miroir, elle accentue l'effet d'exclusion du regardeur du tableau. Le titre, comme le dit Camille de Brabant, souligne l'impermanence de l'image, reflétant les réalités sans cesse modifiées du visible, qui résonne comme un hommage au transitoire, fugitif et contingent baudelairien. Ce balayage et cette instabilité de l'image est une évidente critique des pratiques du zapping qui évacuent les images avant même que nous puissions en saisir le sens et les insèrent dans un flux incessant et vide de sens. La quatrième technique serait l'intrusion dans l'espace de l'œuvre qui consiste à dégrader, déformer, transformer l'image à laquelle nous ne pouvons plus accéder afin d'annihiler, contaminer la puissance de l'image devenue une peau intrigante, fantomatique mais sans corporéité. L'intrusion la plus évidente est celle d'un virus informatique. Joseph Netzvatal, Viral Attack Becoming Centaur, introduit un logiciel virus qui progressivement mange les couleurs. Le fonctionnement du virus est décrit par Stéphane Sicora, je le cite. Le seul objectif d'un virus est de survivre. Pour survivre, un virus doit maintenir un niveau minimal d'énergie vitale, appelé E. E se réduit en quantité constante, E moins, à chaque étape de la simulation. Lorsque E atteint zéro, le virus est considéré comme mort, il est donc éliminé de la simulation. Par conséquent, afin de rester en vie, le virus doit gagner de l'énergie. Dans Computer Virus Project, la seule façon pour un virus de le faire est de modifier la couleur de son hôte. Plus il change de couleur, plus il gagne d'énergie. Par conséquent, l'énergie gagnée E+, est proportionnelle à la quantité D de ressources échangées. L'image qui en résulte est presque noire et laisse à peine percevoir le sujet d'origine de l'image. L'image contaminée et presque détruite devient le fantôme de l'image d'origine qui dévoile à peine le corps d'un centaure. Mais avec un processus plus complexe, l'œuvre Neural Decay de Mario Klinkerman est obtenue à partir de GAN, qui sont des réseaux de neurones antagonisme génératif. Comprenant d'immenses bases de données, trois réseaux conçoivent des images de visage soumis à un logiciel vérificateur qui assure qu'elles ne sont ni copiées ni connues. L'artiste intervient en sélectionnant des données d'entrée ou de sortie pour faire dérailler le système d'intelligence artificielle. Il en résulte des images tout à fait nouvelles et imprévisibles. Dans ce cas, l'image ne résulte pas d'une image originelle, mais en crée une prévisible, fantomatique et dégradée. La matérialité de l'image, comme Grenley, dissout l'idée de la corporéité pour ne laisser qu'une mue, comme celle d'un serpent. Cette intrusion dans l'espace de l'image est parfois organisée par les pouvoirs publics pour préserver, camoufler des espaces sensibles, économiques ou militaires. Mischa Henner, dans son œuvre « Dutch Landscape, Frédéric Kazern, The Hague, South Holland », propose une vision d'un quartier de La Hague, issu de Google Earth, qui montre une vue d'en haut du quartier, et à côté, un espace abstrait de camouflage, situé à l'endroit de la Frédéric Kazern, que les autorités apparemment ont décidé d'exclure de la vue de tout utilisateur de Google Earth. Le simple constat de cette intrusion dans l'espace de Google Earth, sans intervenir sur l'image capturée, suffit au regardeur pour comprendre que l'enjeu du contrôle des images est essentiel pour les pouvoirs, qu'il s'agisse soit de multiplier les images de surveillance, soit de favoriser un flux vide de sens, ou de camoufler ce qui ne doit pas être vu. Ainsi, les artistes peuvent soit s'introduire dans l'œuvre pour la contaminer, la détruire, soit établir le simple constat de cette intrusion pour en révéler la duplicité. L'œuvre de Sylvie Fanchon, « Bonjour, je suis ici pour vous aider », nous fournit un exemple d'intrusion, cette fois à l'aide d'une dissonance formelle à l'intérieur de sa peinture. Elle se compose d'un fond monochrome bleu sur lequel elle a brossé horizontalement de larges traces de peinture rouge. Dans ce tableau, qui pourrait relever de la longue tradition abstraite, elle introduit des lignes de typographie en réserve, sans espace entre les lettres, formant eux aussi une sorte de trait typographique. Cette partie de phrase, comme celle du titre, proviennent de l'assistant vocal de Microsoft, Cortana. Ces traits typographiques sont une véritable intrusion dans la belle et sereine composition abstraite de la peinture, comme peut l'être la voix de cet assistant qui vient comme s'immiscer dans notre espace personnel. La série d'œuvres « Chat Random » de Cecilia Hampton en est encore un autre exemple d'intrusion, opérée directement par l'artiste pour fabriquer son œuvre. La série de peintures fait référence à une plateforme Internet au départ de discussion qui est devenue, par les pratiques des internautes, une plateforme pornographique où principalement des hommes exhibent leur partie sexuelle. L'artiste met en place un processus intrusif de fabrication de sa peinture. Il s'agit pour elle de peindre très rapidement la scène proposée par l'internaute seulement durant le temps de sa diffusion. Le fait qu'elle ne peigne que durant le temps précis de la séance confirme bien sa volonté de s'introduire en un temps réel dans cette diffusion afin d'en rendre compte. L'artiste explique, je le cite, « Le plus souvent ce sont des hommes qui, devant leur ordinateur, s'exhibent et s'excitent. Il faut alors les peindre le plus rapidement possible dans la tension qu'engendre ce parti pris. La fin de la conversation marquera également celle de la toile. Ces toiles sont véritablement décevantes, formellement, car la vitesse d'exécution ne permet que d'esquisser la scène. À cette banalité de son contenu correspond une critique acerbe de l'incapacité de l'image à exprimer une tension sexuelle, c'est-à-dire d'une incapacité à exprimer un contenu en raison du court temps de diffusion qu'amplifie le processus adopté et de la vacuité de l'image correspondant à celle de la solitude des acteurs. Incidemment, l'obligation du musée de mettre en place un dispositif de prévention pour les mineurs est critiquée par le sens même de ces peintures. Ces tableaux ne sont pas pornographiques car ils n'y parviennent pas, à l'inverse de ceux de Marilyn Minter par exemple que nous allons évoquer. Si une solide éducation à l'image était acquise dans nos sociétés démocratiques, ce type de prévention saurait s'appliquer avec plus de discernement. La cinquième technique serait la subversion du contenu de l'œuvre et nécessite une lecture plus aiguë de l'image. Revenons sur le tableau « Foot Porn 71 » de Marilyn Minter, qui présente une image où deux mains sont peintes sur la diagonale du tableau, l'une en haut, l'autre en bas. Celle du haut tient un poisson par l'arête dorsale et celle du bas éviscère le poisson en enfonçant le bout de son doigt dans son abdomen. La peinture du corps du poisson dégouline en gris, celle de sa tête en rouge. Les deux textes peints comme s'ils étaient brodés, l'un sur la gauche, en haut et en bas, « Pull gently », tire délicatement, doucement, l'autre, sur la gauche, « Cut it », coupe-le. Elle illustre une pratique existante sur les réseaux, le « foot porn », qui consiste à poster des plats aux multiples métaphores sexuelles explicites, mais dont elle est en quelque sorte précurseur ayant réalisé ses œuvres avant l'arrivée de cette pratique sur les réseaux. La composition de l'image est uniquement concentrée sur son renversement en image pornographique. Elle utilise le gros plan bien centré sur l'action. Les mains sont féminines en raison du vernis rouge appliqué sur les ongles. L'action présente est plus une caresse vaginale lesbienne qu'une éviscération de poisson, amplifiée par les textes implicites « tire doucement, coupe-le ». Les textes et décors de Broderie ne peuvent qu'insister sur le caractère féminin de l'espace de l'action. Et la double diagonale, celle du poisson et celle formée du pouce de la main droite et de l'index actif de la main gauche, indique en son croisement le lieu de l'action. Cette construction de l'image, entièrement au service de la métaphore sexuelle, qui, sans le dire, vient subvertir totalement le sens de l'image pour en faire une image pornographique, sans qu'elle le soit littéralement, c'est-à-dire une image ne montrant pas des sexes. La subversion de l'image paralyse le sens littéral de ce que l'on voit pour révéler un sens non dit, opère une critique des manipulations de l'image par la mise en évidence de la manipulation qu'elle conduit, justement pour critiquer la consommation des images pornographiques. La subversion est une action qui vient renverser, saper les valeurs établies par le système de pouvoir. Elle agit en deux temps, opérer une paralysie du sens littéral, puis faire apparaître un sens non dit. L'œuvre Missing Collection, Face Up d'Edouard Boyer, agit ainsi. L'artiste part d'une image pour réaliser une peinture qui soumet à un processus plus ou moins complexe, mais qui comprend toujours la délégation de l'action de peindre à d'autres. Missing Collection, Face Up, est une série d'autoportraits peints obtenus à partir de photographies d'identité soumises au fonctionnement d'un logiciel Face Up qui vieillit les visages numériquement. Mais comme le dit Camille de Brabant, ce n'est pas l'approximation de la simulation réalisée par l'intelligence artificielle qui inquiète ici, mais le devenir de l'image retouchée systématiquement récupérée par l'application Face Up à laquelle les droits d'exploitation sont automatiquement cédés. En effet, en faisant reporter ces images sur une toile par des peintres chinois, l'artiste désactive non seulement le sens de l'image d'origine, qui est devenu un portrait d'enfant vieilli inquiétant, par exemple, il désactive aussi le sens du fonctionnement de cette application conçue pour la surveillance des individus afin de mieux les identifier plusieurs années après, qui s'avère sans objet appliqué à une photo d'identité d'enfant et inapplicable à l'exploitation des droits de l'image puisque l'image est devenue peinture. Cette subversion de l'image organisée par l'artiste relève le poids omniprésent de la technologie dans la volonté de contrôler et surveiller les individus et des techniques de marchandisation de l'image. Il est à noter que la délégation de la peinture donnée au peintre chinois de Xiamen est, elle aussi, une subversion de la notion d'originalité. La transformation de l'image en peinture la nie. Elle n'est plus que l'origine de la peinture. La délégation de peindre au peintre chinois obère la possibilité de reconnaissance d'une originalité à l'œuvre exposée par Édouard Boyer. Ainsi, il porte une critique sur la notion d'originalité de l'œuvre, comme bien d'autres artistes. Cette notion découle du rôle structurant de l'individu au sein de notre société. La sixième technique serait l'infinitude du contenu de l'œuvre, soit parce qu'il devient infini, soit parce qu'il est tautologique, pris dans un système clos et circulaire qui se mord la queue, pour le dire autrement. Soit parce qu'il est reproductible à l'infini. L'œuvre Génération, trois petits points, etc., trois petits points, de Didier Bencobony, se développe grâce à un logiciel de génération de formes, qui, à partir d'une base de données constituée de l'ensemble de ses œuvres de 1998 à aujourd'hui, crée de nouvelles œuvres dès qu'il est activé, qui viennent s'ajouter au corpus de son œuvre. Un site internet www.generation-etc.com en est le support. Mais l'œuvre peut donner lieu à différentes présentations, comme celle de l'exposition, où il prend la forme d'une imprimante couleur qui imprime, dès qu'elle est allumée, des œuvres toutes uniques. La page d'accueil nous indique « À chaque instant, naissent de nouveaux tableaux virtuels qui ne sont pas sauvegardés. Ainsi est inventée la représentation de l'éphémère absolu, image non capturée, ne pouvant être vue qu'une fois à jamais, avec pour seule limite l'épuisement de celui qui regarde. » L'infinitude des œuvres créées rend possible leur réappropriation par tous, car les qualités recherchées pour une œuvre au sein de notre système économique et politique, l'originalité, le sens et la valeur, ne s'appliquent plus aux œuvres, mais à ceux qui l'activent, ceux qui la regardent. Accessibles à tous, elles ruinent le marché spéculatif de l'art, puisqu'elles n'ont plus de valeur. N'ayant de sens que pour ceux qui la reçoivent, elles les libèrent de l'univocité de leur sens imposé. Créée par et pour tous, l'œuvre n'a plus d'originalité, seule chacune des formes créées que s'approprient les uns et les autres deviennent originales. L'œuvre de Joseph Riedel, Powerpoint Painting, dont l'installation est complexe, met en œuvre des processus de duplication, de répétition, de transposition, de transition, de réappropriation d'éléments de ses propres œuvres. Il utilise les fonctionnalités du logiciel PowerPoint comme s'il l'utilisait pour faire une conférence sur son travail, pour réagencer, réécrire, réorganiser sa médiation et sa communication. Il écrit « Quand vous faites une œuvre d'art, les gens commencent immédiatement à vous dire que c'est bon ou mauvais. Pour me débarrasser de cette pression, j'ai commencé à dupliquer des choses et à répéter des choses. Cette sorte d'expression indifférente, de sorte que vous êtes libre, pas vraiment responsable de l'œuvre, et vous êtes du même côté que le critique, en quelque sorte debout à l'extérieur de l'œuvre. » Une historienne de l'art, Tina Kukiecki, écrit « L'autoréférence constante fonctionne davantage comme une mise en abîme, érodant toute valeur d'usage jusqu'à l'effacement. » Et Camille de Brabant de poursuivre, c'est un système clos d'information et de communication du monde de l'art, avec la futilité de ses outils, l'inanité de ses échanges et de son inflation numérique qui est mis en crise et monumentalement épinglé contre le mur bien réel. Ainsi, l'artiste constate, dans ce cas, je me réécris moi-même, en d'autres termes, je ne suis pas seulement l'artiste qui fait de l'art, mais aussi l'artiste qui se regarde faire de l'art et qui perçoit ce processus comme de l'art. Cela déplace également la position du spectateur qui observe l'artiste se regardant faire de l'art. La mise en boucle de ces jeux plastiques, de sa propre réappropriation de son travail, renvoie à un système tautologique qui critique la vacuité de cette mise en abîme du sens, de la valeur et de ses formes artistiques, mais annonce un renversement de sa position, car il est en quelque sorte expulsé de son œuvre au profit de tous les autres qui peuvent y entrer et peut-être de lui-même sous la forme d'un avatar. L'œuvre de Jonas Ludd, intitulée VIP pour Viewer Improved Painting, peinture améliorée par le regardeur, se compose de deux écrans, au-dessus duquel est installée une caméra qui capte les mouvements oculaires du regardeur, traité par un algorithme qui teste différentes compositions, analyse l'œuvre la plus regardée pour définir l'œuvre susceptible d'être la plus appréciée par tous. L'œuvre se compose au fil des interactions. La définition de l'œuvre la plus appréciée est vide de sens, car même celle-ci est éphémère, et sa valeur impossible puisqu'elle dépend du mode de l'interaction. Sa critique du fonctionnement du marché capitaliste de l'art met en évidence la fausse interactivité du spectateur qui ne décide en rien de ce qui lui semble lui plaire, la fascination des technologies qui ici tournent à vide et la virtualité de la valeur spéculative de l'art égale à celle de la monnaie. Je conclurai avec l'œuvre de Kelly Walker intitulée « Laughing, we joke that under the paving stone there was a beach » de la série Nine Disaster, qui se compose d'une image à imprimer de l'effondrement d'un pont traversé par de très nombreux vésicules trouvés dans la presse, caverdés par un vaste aplat de couleurs orange et rouge, cerné de jaune, qui reprend le tracé du fleuve et occulte la partie détruite du pont. En bas, deux inscriptions aux typographies différentes, l'une comme un titre, Resist Capitalism, et la seconde, Interrogate Spatial Relationship. L'œuvre comprend un CD-ROM commercialisé $10 et accompagné de la notice explicative. Le disque et l'image qu'il contient peuvent être reproduits et diffusés aussi souvent que le détenteur le souhaite. Quiconque reçoit une copie du disque ou de l'image peut également la reproduire, la diffuser à son gré. De plus, quiconque possède un disque ou sa reproduction peut manipuler l'image et la reproduire, la diffuser dans sa version altérée. Toute reproduction, déviation de l'image sur le disque signé Kelly Walker perpétue un continuum en corrélation avec l'œuvre d'art. Littéralement, l'image représente un désastre que le caviardage coloré rend illisible. Une image impuissante à soulever quelque émotion en lien avec le désastre, mais séductrice par l'emploi de ses couleurs vives qui compliquent la lecture de l'image elle-même. Une œuvre dont le sens est absent, incapable de nous rendre compte du désastre, la valeur ridicule dit de l'art et l'originalité rendue impossible par le message très clair d'une reproductivité permise et même souhaitée sous toutes ses formes, même altérées. Une œuvre qui ne sert à rien, si ce n'est que de révéler les mécanismes qui sont à l'œuvre, notre échec patent devant toute catastrophe, résultat de la structure de notre système de fonctionnement global de nos sociétés, qui devrait nous engager à résister pour y mettre fin,
sorte d'appel politique à l'insurrection, la fin de la capacité rédemptrice de l'art, et peut-être, par cette possibilité ouverte à consommer gratuitement l'image, justement, de ne pas le faire, comme nouvelle attitude face aux sirènes de la consommation. Bien entendu, cette présentation n'aborde qu'une approche possible de ces œuvres numériques, il y en a d'autres, comme les relations entre ces formes d'art et l'histoire de l'art que Camille Desbrabant évoque souvent dans ses notices. Néanmoins, il est un contresens qu'il ne faudrait pas faire vis-à-vis de ces œuvres, c'est qu'elles apparaissent sous des formes différentes, avec des propositions et objets différents, comme une critique de notre société, et en cela, elles nous parlent de notre temps.
Yo no quiero hacer lo correcto. A esa mierda ya no tengo tiempo. No vas a escucharme un lamento. A esa puta mierda ya no tengo tiempo. Antes de morir quiero el cielo. El 100%. Antes de morir quiero el cielo. El 100%, por cierto. Antes de que muera yo, pienso follarte hasta borrar el límite entre los dos. Antes de que muera yo, quiero jugar con mi vida hasta verle perdió el valor. Antes de que muera yo, le mato a él y a quien venga detrás. No le temo al dolor, tengo una cuarta. Desde hace años pesado, lo voy a aguantar hasta el caos.
Yo no quiero hacer lo correcto. Pa' esa mierda ya no tengo tiempo. No vas a escucharme un lamento. Pa' esa puta mierda ya no tengo tiempo. Antes de morir quiero el cielo. 100%. Antes de morir quiero el cielo. El 100%, por cierto, antes de que muera yo.